France Info.
Merci à tous d'être à l'écoute de France Info, il est 5h. Et à la une ce matin, ce chiffre terrifiant. Les ONG parlent d'une tuerie de masse en Iran lors de manifestations anti-régime. On parle même de 30 000 morts en deux jours seulement début janvier. De la pluie en Bretagne donc et des risques d'inondations. Mais en Normandie, les nappes phréatiques sont à sec malgré la pluie. Nous reviendrons aussi sur le début du procès de l'ex-sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué une députée pour tenter d'abuser d'elle. Amine Kessassi, le militant contre le trafic de drogue à Marseille, présent sur la liste du maire sortant pour les municipales. Et puis il reste une place pour un Français pour participer aux Jeux Olympiques de Cortina dans deux semaines. Ça va se jouer dans les deux prochains jours. Quelle est l'ampleur de la répression en Iran? Alors que le régime a communiqué la semaine dernière et a fait état de 3000 morts lors de manifestations anti-régime sur fond de crise économique, le nombre de victimes est, semble-t-il, bien plus élevé depuis la fin du mois de décembre. Selon le Time Magazine, hebdomadaire américain qui cite plusieurs sources internes au ministère de la Santé, le bilan pourrait en fait dépasser les 30 000 morts des Iraniens tués en l'espace de deux jours seulement, le 8 et 9 janvier, au tout début de la contestation donc, des chiffres que les ONG spécialisées ne démentent pas à Gérard Mohamed.
30 000 morts dès les premiers jours de la répression, un nombre de victimes qui semble irréaliste et pourtant...
Oui, c'est possible.
Mahmoud Amiri Mogadam dirige l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège.
Nous recevons des informations sur des manifestants morts tous les jours, beaucoup. Donc je ne pense pas que ce chiffre soit irréaliste. Parce que peu importe l'endroit, même dans les plus petites localités, dès qu'il y avait une manifestation, il y a eu une tuerie. Ils ont utilisé des armes de guerre, certains tirés depuis les toits des immeubles, quand d'autres pourchassaient les manifestants dans la rue. Nous parlons d'une tuerie de masse à une échelle qui n'a pas d'équivalent à notre époque.
Et puis il y a ces centaines, peut-être milliers de manifestants blessés. Le ministère iranien de la Santé les encourage à se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Mais beaucoup refusent, redoutant un piège, et pour cause.
Plusieurs témoignages affirment que des blessés ont été transférés, qu'ils étaient vivants en arrivant à l'hôpital, mais ensuite on les a retrouvés morts, à la morgue. C'est très dangereux.
La liste des victimes pourrait encore s'allonger, car de nombreuses familles restent sans nouvelles de leurs proches ou n'ont toujours pas pu récupérer leurs corps.
Le reportage d'Ajera Mohamed sur France Info. Les États-Unis, qui ont menacé l'Iran d'intervenir à plusieurs reprises, ont déployé leur présence dans, renforcé leur présence dans la région. Un porte-avions vient d'arriver au Moyen-Orient. Donald Trump affirme qu'il ne veut pas voir de gens blessés ou tués dans les rues des États-Unis. Déclaration du président américain alors que la tension continue de monter dans différentes villes du pays, en particulier à Minneapolis, où un homme de 37 ans a été tué ce week-end, alors qu'il manifestait contre l'action de la police aux frontières. Des agents fédéraux vont quitter la ville à partir d'aujourd'hui, assure le maire de Minneapolis. Les États-Unis, où le bilan humain de la tempête hivernale continue de grimper ce matin, 23 morts au moins selon les autorités et 600 000 foyers sont toujours privés d'électricité. La température ressentie peut atteindre moins 45 degrés par endroit et les températures doivent encore chuter dans les prochains jours à cause d'une masse d'air venue de l'Arctique. En France, ce sont de nouvelles pluies en Bretagne qui font craindre des inondations. Le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont en vigilance orange. Des perturbations qui s'enchaînent aussi en Normandie. Et pourtant, dans le département de la Manche, les nappes phréatiques sont à des niveaux bas, voire très bas. Normalement, c'est en ce moment que les nappes se rechargent. La situation est donc surveillée de près, même en plein hiver, Lucie Thuillet.
Les précipitations en ce début d'année dans la Manche, elles sont conformes à la normale, mais elles ne permettent pas de rattraper le déficit accumulé, notamment à cause de l'importante sécheresse de l'an dernier qui a duré de février à novembre, explique Maxime Gonny. C'est le directeur ressources en eau au syndicat départemental de l'eau de la Manche, le SDO 50.
On a finalement le préjudice de toute une année de sécheresse 2025 qui a été très longue, moins intense que 2022, mais suffisamment longue pour mettre à mal toutes les ressources, notamment souterraines. Et on se retrouve avec des secteurs en eau souterraine Iran qui sont en tension avec des niveaux bas, voire très bas.
C'est le cas à plusieurs endroits dans le centre Manche, notamment autour de Marchézieux, mais aussi dans le sud Manche. Le niveau actuel des nappes est donc plus bas que l'an dernier ou qu'en 2022, année de sécheresse. Les pluies du mois à venir vont donc être cruciales.
On va être vigilant sur les précipitations à venir, mais si elles restent malheureusement qu'à la normale, on risque de se retrouver en début printemps, début été, avec des ressources insuffisantes en termes de quantité.
Quant aux rivières, qui représentent 40% de l'approvisionnement en eau potable dans le département, elles sont très réactives aux pluies. Elles se rechargent vite et peuvent atteindre en ce moment des niveaux conformes à la normale. Sauf que les nappes voisines, qui servent aussi à les alimenter, est en basse. Dès que les pluies cessent, le niveau des rivières a tendance à baisser, même en plein hiver.
Lucie Thuillet, ici Cotentin pour France Info. Un début de soirée pour fêter un succès électoral et deux versions qui s'affrontent. Deux ans après les faits, premier jour hier du procès de l'ex-sénateur Joël Guerriot, accusé d'avoir drogué sa collègue, la députée Sandrine Josso. Joël Guerriot a nié devant le tribunal, plaidé l'accident. Sandrine Josso, elle s'est présentée bouleversée à la barre, Mathilde Lemaire.
Sandrine Josso ne regarde pas l'ex-sénateur assis à un mètre d'elle sur les bancs de la Défense. Debout à la barre, elle se concentre pour livrer ses souvenirs de cette soirée où, selon ses mots, elle était venue voir un ami et a découvert un agresseur. Il y a eu le goût bizarre du champagne, l'insistance de son hôte à lui faire finir son verre, puis les palpitations, les sueurs et ce moment où elle l'a vu dans la cuisine ranger un petit sachet plastique. Sanglotant dans le prétoire, la députée raconte sa panique alors. Je me répétais qu'il fallait surtout rien montrer de mon état. J'avais peur qu'il me dise de m'allonger. Là, j'aurais été piégée. Mon seul but, c'était de m'échapper. Le président souligne le gouffre entre leurs deux récits. Joël Guerriot assure qu'il pensait qu'il y avait un remontant, mais pas de la drogue, dans ce sachet, qu'il avait oublié cette poudre blanche au fond de la coupe qu'il a utilisée par inadvertance. Défense presque extravagante, il justifie ses recherches Google la veille, drogue et viol, GHB, effet et ses consultations de site d'Escort Girl. Un parlementaire, c'est la base, doit s'intéresser à tous les sujets de société, dit l'ex-élu, qui salue enfin le travail de Sandrine Josso depuis les faits pour lutter contre le fléau de la soumission chimique. Les juges apprécieront.
Récit d'audience signé Mathilde Lemaire, deuxième et dernier jour du procès aujourd'hui. Plus de 6300 bouteilles de protoxyde d'azote retrouvées en Savoie, saisies par la police. Trois Maltais ont été arrêtés. Les bouteilles devaient être vendues dans la station de ski des Arcs, selon la gendarmerie. Valeur estimée 340 000 euros. Lui est une figure de la lutte contre le trafic de drogue à Marseille. Amine Kessassi s'engage aux côtés du maire d'hiver gauche de Marseille, Benoît Payan, dans la course au municipal, un peu plus de deux mois après l'assassinat de son frère. Ils l'ont annoncé lors d'une conférence de presse commune hier soir dans les quartiers nord de Marseille, Mathilde Vinceneux.
Amine Kessassi est arrivé entouré de quatre policiers au visage masqué. Dans cet ancien McDonald's des quartiers nord, devenu un fast-food solidaire, il est applaudi longuement par des militants et à 22 ans, il le répète, il n'a pas peur de se lancer dans la campagne.
De quoi voulez-vous que j'ai peur ? On a déjà tué mon petit frère, on a déjà assassiné et calciné mon grand frère Brahim. Il y a effectivement un important dispositif de sécurité autour de moi. Néanmoins, je ne suis coupable de rien et je ne vivrai pas assigné à résidence.
Aux côtés du maire de Marseille, Benoît Payan, et avec l'Alliance de la gauche, Amine Kessassi veut faire de la ville une vitrine de la lutte contre le narcotrafic en commençant par mieux accompagner les familles de victimes en mettant en place un dispositif pour les reloger.
On va être la ville qui va accompagner toutes ces mamans endeuillées. Ça, c'est grand. Dans la ville où on a un nombre d'homicides qui ne cesse de s'accroître, bien sûr qu'il va y avoir encore des effectifs de la police municipale supplémentaires durant ce prochain mandat.
Quelle sera la place d'Amine Kessassi sur la liste pour la mairie centrale ? Sera-t-il candidat pour une mairie de secteur dans les quartiers nord où il s'était déjà présenté aux dernières législatives? Benoît Payan reste évasif.
Il aura un rôle au cœur du dispositif à mes côtés pour mener cette campagne et donc moi je veux m'incliner devant son courage.
Ce qui est sûr, c'est qu'Amine Kessassi ne pourra pas faire campagne comme tout le monde, s'inquiète l'une de ses proches.
Mathilde Vinceneux, et puis il débute dans moins de deux semaines les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina et il y a encore des rebondissements dans la liste des skieurs alpins français sélectionnés. La Fédération internationale n'avait accordé que 7 places. Les Français retenus étaient connus depuis 10 heures hier matin et Alexis Pinturo n'en faisait pas partie. Mais voilà, en fin de journée hier, le comité olympique français a fait savoir que l'équipe de France masculine bénéficiait d'une place supplémentaire. Une place pour qui ? Certains vont sûrement jouer leur place sur la piste aujourd'hui et demain, Fabrice Abgral.
Parce que, hasard du calendrier, la station autrichienne de Schladming organise ce soir un géant et demain soir un slalom. Trois skieurs sont concernés, dont Alexis Peintureau et Thibaut Favreau. Ils seront tous les deux au départ du géant. À eux d'obtenir le meilleur résultat possible pour influencer le comité de sélection. Le meilleur résultat, c'est quoi ? Gagner la course ou terminer sur le podium ou encore intégrer le top 10, ce qu'a réussi deux fois Thibaut Favreau cette saison, mais pas encore Alexis Peintureau, puisqu'en six géants disputés, il n'a jamais fait mieux qu'une 11e place. Victor Mufajan devra se distinguer demain lors du slalom pour garder une chance d'être sélectionné. Mais rien ne dit que cette place leur reviendra. Deux descendeurs peuvent prétendre à ce ticket providentiel. Mathieu Bellet et le vétéran et très expérimenté Adrien Théo. Le géant et le slalom de Schladming risquent bien malgré tout d'être des courses capitales pour l'attribution de la place supplémentaire, à moins que les patrons du ski français privilégient un spécialiste de la vitesse.
Merci beaucoup pour ces précisions. Et puis on reparle de la météo avec Christine Peña. Vous nous dites ce matin que Chandra, alors on la découvrir, Chandra traverse la France.
Mais voilà, c'est une Chandra. Perturbation effectivement très pluvieuse hein, qui va donner du vent, de la pluie et de la neige sur tout le territoire. Hein. C'est vraiment le défilé de ces perturbations. Même en Méditerranée, les pluies seront de nouveau soutenues aujourd'hui, notamment vers les Alpes-Maritimes. Le Languedoc-Roussillon sera un peu à l'écart, sous les nuages, mais beaucoup moins de pluie. Les chutes de neige seront conséquentes sur les Alpes et les Pyrénées notamment. Et puis demain, mercredi, petite accalmie avant le retour d'une nouvelle perturbation. On n'a pas encore le nom. Hein. Aucune amélioration n'est prévue d'ailleurs. Il semblerait qu'un refroidissement intervienne, mais pour la deuxième semaine de février. Mais les prévisions sont encore à prendre avec des pincettes un peu loin.
Vous nous direz tout dans les prochains jours. Merci beaucoup Christine Peña.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
À venir d'ici 5h30 sur France Info, la renaissance du bullion français, des pièces en or fin réalisées à Paris. Notre reporter a pu visiter les coulisses de la fabrication à la Monnaie de Paris. Et tout de suite, ces nouvelles pluies en Bretagne qui font craindre de nouvelles inondations.
France Info, 5h-6h, Maureen Suignard.
Encore des pluies sur des sols déjà gorgés d'eau. Trois départements sont toujours en vigilance orange ce matin pour des risques de pluie, inondations et de crues. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère. Une commune est bien habituée à cette montée des eaux. Redon, dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, 200 mètres de barrages anti-inondation ont été installés hier, Valentin Belleville.
Les militaires de la sécurité civile s'activent.
Il faut anticiper sur les rehausses.
Ouais.
Nous sommes à quelques mètres de la Vilaine dont le niveau va grimper dans les heures qui viennent.
On reste là. C'est bon.
Antoine, on réhausse jusqu'en haut.
Moi, ça me met du temps à installer tout ça.
Eh bah, là, on a été rodé, donc vous voyez, on a commencé à 14h15 et il est 15h40.
Avec ça, normalement, ça ne débordera pas.
On espère.
En tout cas, vous faites tout.
En tout cas, voilà, il y aura 1m20 de garde-fou, on va dire.
La structure en aluminium n'est pas fixée par des boulons, mais est simplement posée au sol. La force de l'eau, si elle monte jusque-là, stabilisera ensuite le barrage. Sur le dispositif métallique, une immense bâche bleue est déployée. Elle sert à empêcher l'eau de passer à travers la structure.
Vous faites quoi, bleu, blanc, rouge pour la couleur de la République?
C'est une idée. Je vais la soumettre.
On va voir le monsieur le préfet alors.
Faut anticiper sur les rehausses.
Justement, Franck Robin, le préfet d'Ille-et-Vilaine, est avec le responsable de la sécurité civile un peu plus loin.
Les chaînes, c'est pour quoi? C'est pour l'accrocher?
En fait, c'est juste pour soutenir la bâche. En fait, ça fait du poids sur la bâche pour éviter qu'avec le mouvement de l'eau, elle puisse être retirée. Il y a des petits clips que vous voyez en bleu au-dessus, avec des clips qui sont posés pour tirer la bâche. Et les chaînes qui font le poids, quand la vague arrive, au moins la bâche ne se sent pas avec le corps en avion.
Présent aussi sur le dispositif, le maire de Redon, Pascal Duchesne, qui, sans faire de catastrophisme, fait part de son inquiétude face à la menace des inondations.
Là, on est dans un moment d'anticipation des crues et des inondations. Là où nous sommes, les quais ne sont pas encore submergés. Ils pourraient l'être à la fin de la semaine. Voilà, il fallait anticipé. C'est tout le sens de l'activation du plan communal de sauvegarde qui a vocation non seulement à protéger les habitations, les activités également, mais aussi, j'espère, à faire un peu baisser le stress d'un certain nombre de mes concitoyens qui habitent ces quartiers, qui sont inquiets toujours de la survenue des eaux.
Et de leur côté, les pompiers d'Ille-et-Vilaine, eux aussi, sont mobilisés ces jours-ci. 550 soldats du feu sont prêts à intervenir en cas de crue.
Valentin Belleville d'ici Armorique pour France Info. On l'entendait, le problème avec ces pluies qui arrivent encore, c'est que les sols sont déjà saturés par les intempéries de la semaine dernière. Nous ne sommes pas dans l'exceptionnel, nous dit Steven Tual, mais le météorologue alerte sur France Info sur la situation qui peut encore s'aggraver.
Quand on retrace un petit peu depuis le début de l'année, il est tombé entre 200 et 300 mm sur le bassin versant du massif armoricain. Et c'est de là que toute cette eau converge finalement vers Laval, vers ces villes, Quimperlé, Zinzac, Locrist, Quimper. Des noms qu'on entend souvent et qui sont souvent soumis à ce risque d'inondation. Donc les pluies ont été abondantes depuis le début de l'année, mais pour l'instant, en tout cas, pas à des niveaux exceptionnels. On est surtout sur un hiver très pluvieux. Mais cette semaine, tout l'enjeu est de savoir justement si on va basculer de ce côté exceptionnel.
Est-ce que les départements bretons sont, on va dire, habitués à ce type de phénomène et suffisamment préparés, selon vous, même s'il y a encore des gens qui vivent en zone inondable ?
Alors oui, la Bretagne est plutôt habituée à avoir des inondations. Et quand on remonte aux dernières inondations, on en a eu en septembre 2025 du côté de Saint-Brieuc, en janvier 2025 dans le bassin de Rennes, à Redon. Donc les inondations, ça arrive souvent, surtout en hiver dans notre secteur. Les sols saturent généralement entre janvier et février, à la fin de la saison hivernale, juste avant que les températures remontent en mars. Et ces inondations-là, est-ce que la Bretagne est suffisamment préparée ? On voit qu'il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, la ville de Redon est très canalisée aujourd'hui. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place en vue des précipitations qui arrivent. Mais malheureusement, quand on regarde un petit peu comment on a artificialisé les sols, on a supprimé 30% des zones humides, 30% des fossés également. Eh bien, toute cette eau qui doit ruisseler normalement à ces endroits-là ne le fait pas. Et forcément, ça augmente les débits au sein des rivières.
On pourrait améliorer les choses en faisant quoi, selon vous ?
Pour moi, il faut augmenter la place des zones humides, la place du stockage de l'eau en augmentant justement la part des fossés, la part également des zones humides, des zones d'expansion d'eau, notamment là où il y a pas mal de zones urbanisées. On pense aux villes importantes comme Rennes, comme Lorient, qui sont systématiquement assez exposées à ces endroits-là. Après, il y a d'autres endroits où les choses sont moins aménageables. Par exemple, Quimperlé, la plupart de la basse ville est dans le lit majeur de la rivière, donc il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement.
On a l'impression, Steven Tual, que les Bretons sont habitués. On ne voit pas de mouvement de panique. On n'a pas entendu, en tous les cas, dans les reportages, des gens traumatisés, visiblement plutôt habitués à ce type de phénomène et ils font avec.
Alors, parce que c'est pas les mêmes crues que dans le sud de la France. On a moins de pentes, donc du coup, les crues, on les voit venir. Généralement, par exemple, sur le bassin versant de Quimperlé, on a à peu près 4 à 6 heures d'avance sur l'eau qui tombe sur le massif armoricain. Sur Redon, c'est 3 à 4 jours sur ce qui tombe sur Rennes. Donc, vous voyez, il y a quand même le temps de voir les choses venir. C'est des crues qui sont beaucoup moins rapides que dans le sud de la France, où parfois, en quelques minutes, vous allez être surpris par la montée des eaux. Donc, c'est des choses qui sont un peu plus sournoises, où malheureusement, les gens voient l'eau monter et sans pouvoir faire quelque chose. Mais par contre, généralement, ça menace moins les vies que dans le sud.
Vous évoquiez tout à l'heure les solutions. Est-ce que vous pensez sincèrement c'est encore possible aujourd'hui de défaire finalement ce qui a été fait au fur et à mesure des années, c'est-à-dire artificialiser les sols, construire? Est-ce qu'on peut déconstruire?
Alors pour des communes qui sont souvent exposées à ce risque d'inondation, il y en a un certain nombre en Bretagne qui sont concernées quasiment partout. Tous les ans par ce risque, eh bien, la solution, elle vient de nos voisins des Pays-Bas, où il y a des maisons qui se construisent sur des pilotis. Il faut réfléchir à ces solutions-là. Ce sont des solutions d'adaptation qui, il y a 20 ans, nous paraissaient totalement farfelues, qui sont aujourd'hui la solution face à ces crues répétitives. On sait que pour 1 degré de réchauffement supplémentaire, on va avoir 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère, donc des pluies d'autant plus fortes qui vont tomber. Donc, le risque d'inondation va souvent se répéter en hiver dans nos secteurs. Donc, les communes qui sont aujourd'hui sinistrés doivent penser à ces solutions-là.
Est-ce qu'il va falloir rester prudent tout l'hiver ?
Je pense qu'il faut rester prudent globalement jusqu'à début mars, malheureusement, parce que jusqu'à la fin du mois de février, en réalité, les sols vont rester saturés, les températures sont suffisamment basses. On n'a pas ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Hein. C'est un peu comme vous quand vous vous mettez à courir. Vous générez de la chaleur, de la transpiration, donc vous enlevez de l'eau. C'est la même chose pour la nature. Les températures, tant qu'elles vont rester basses, les sols seront saturés. Donc pour chaque perturbation qui va circuler sur la Bretagne, malheureusement, on aura à nouveau des risques d'inondation sur les mêmes bassins versants. Et on a cette période très compliquée qui s'anticipe déjà, hein, d'ailleurs, sur des communes bretonnes où beaucoup se protègent déjà en vue de ces marées qui s'annoncent plus importantes début février.
Steven Tual, météorologue et fondateur du site Temps Breton, dans le 21h minuit de Julien Langlais. Et on vous emmène dans l'un des endroits les plus inaccessibles de la capitale ce matin. Dans un instant, France Info reportage à la Monnaie de Paris qui fait renaître le bullion français, une pièce en or fin, alors que le cours de l'or grimpe un peu plus chaque jour.
France Info, 5h-6h.
Et bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
5h20 à la une ce matin, les réseaux sociaux bientôt interdits aux moins de 15 ans.
L'Assemblée nationale a adopté la nuit dernière une proposition de loi dans ce sens. Direction désormais le Sénat, examen dans les semaines à venir, promet le gouvernement. L'Australie est pour l'instant le seul pays à avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Aux États-Unis, à Minneapolis, sous la pression de la rue, les agents fédéraux vont commencer à quitter la ville 3 jours après la mort d'un deuxième Américain tué par la police de l'immigration. Donald Trump multiplie les gestes d'apaisement tout en accablant l'opposition démocrate pour sa résistance aux actions de la police. Le risque de crue toujours important dans 3 départements bretons, le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange. Nouvel épisode pluvieux avec des cumuls notables de pluie selon Météo France, avec des sols saturés d'eau. Déception pour l'équipe de France de handball battue hier par l'Espagne 36-32 pour son 3e match du tour préliminaire du mondial de handball. Nouvelle chance face à l'Allemagne demain.
France Info. Il continue de grimper chaque jour. Le cours de l'or augmente un peu plus. Il a pour la première fois hier dépassé la barre des 5 100 $ l'once, soit 4 293 euros précisément pour 31,1 grammes de métal jaune. Il y a 2 ans, l'once valait un peu plus de 2 000 $. L'or, valeur refuge, profite des menaces de guerre commerciale de Donald Trump. Et face à cet engouement, la Monnaie de Paris, chargée notamment de frapper les euros, fait renaître le bullion français. C'est-à-dire une pièce en or fin qui sera bientôt proposée comme investissement aux particuliers. Marina Capitaine, vous avez pu visiter les coulisses de la fabrication de cette pièce et c'est un endroit sous haute sécurité.
France Info, j'ai rien pour France Info.
Scanner d'aéroport, portable laissé en consigne et interdiction d'entrée avec des pièces dans les poches. Derrière ces murs en vieille pierre, en bord de Seine, la Monnaie de Paris fabrique et entrepose ses pièces de collection et donc bientôt ce bullion, pièce d'or frappée pour les investisseurs, inventée en France sous Louis XIII, mais depuis longtemps uniquement disponible à l'étranger.
Ça c'est le mien, c'est mon établi, celui-ci.
Corentin est graveur de monnaie, un métier en voie de disparition qui va de la création du dessin sur la pièce à la réalisation de ce qu'on appelle la matrice.
C'est un moule, mais sauf qu'à la place de faire couler de la matière comme dans un moule, là on va frapper de la matière.
Vous nous présentez vos outils ?
Ouais, alors... On a ici des burins.
Et donc un burin ne va pas sans le marteau qui l'accompagne.
C'est ça. Et on tient vraiment le marteau tout au bout du manche. On va passer des heures et des heures et des heures sur un seul sujet. Il faut s'accrocher pour avoir le même niveau de qualité et d'exigence du début à la fin.
Ce moule doit être parfait puisqu'il en découlera toutes les futures pièces. Pour le bullion, le nombre dépendra de la demande, de l'engouement pour ces 4 versions, once d'or, demi-once, quart et dixième d'once. Si ça marche, la monnaie pourrait renouer avec une activité intense. Stéphane Tapia est monnayeur, un savoir-faire précieux, car si c'est une machine qui frappe les pièces, c'est encore l'œil humain qui les vérifie.
Malgré le fait de les avoir soufflés, nettoyés, il peut y avoir une petite poussière qui se met dessus et comme on frappe souvent autour de 200 tonnes, bah une petite poussière, ça s'incruste dans les parties polies et en fait ça saute aux yeux, enfin pour nous ça saute aux yeux, c'est que ça fait un petit point brillant, ça se voit. L'or en général, on n'a pas des grosses quantités et par contre le bullion ça peut être 3000 comme ça peut être 300 000, du coup forcément la frappe sera différente, on ne le fera pas sur les mêmes machines, on s'organisera d'une autre manière, donc oui, on a hâte de voir ce que ça va donner.
Une version numérique sera aussi proposée et quoi qu'il en soit, le prix sera indexé sur le cours de l'or, augmenté de la commission de la monnaie de Paris. Elle espère conquérir le marché des pièces d'investissement avec ce bullion made in France. Reste deux inconnus, le design de la pièce et sa date de lancement. Ce devrait être courant 2026.
France Info, reportage de Marina Capitaine. Et voici le monde d'Élodie avec Élodie Suigo. Deux musiciens sont à votre micro France Info ce matin, Élodie.
Bonjour Roberto Fonseca et Vincent Segal.
Bonjour Élodie.
Roberto, vous êtes amoureux des touches noires et blanches de cet instrument qu'est le piano et qui vous accompagne autant qu'il vous raconte depuis votre plus tendre enfance, passée à La Havane, donc à Cuba. Vincent, vous avez fondu pour le violoncelle, vous. Très tôt, à l'âge de 6 ans, tant et si bien que la musique s'est très vite invitée dans votre quotidien, vous obligeant à aménager votre emploi du temps. Vous êtes ce qu'on appelle un enfant précoce de la France au Canada. Vous avez toujours pris soin d'échanger, de collaborer avec des musiciens. Je pense à Chuck Brown, le parrain du go-go, mais aussi avec Cesaria Evora, Elvis Costello, Oxumo Puccino, Jeanne Chéral, Balaké Sissoko. Aujourd'hui, vous avez décidé d'unir vos instruments, votre sensibilité, vos rythmes endiablés parce que multiples et ensorcelants. Un album est né de cette rencontre créatrice, Nuit parisienne à Cuba et un spectacle, une sonate franco-cubaine avec des concerts attendus comme le 8 février au Théâtre du Châtelet à Paris. On dit souvent que l'union fait la force. Roberto, là j'ai l'impression que vous avez modifié cet adage et qu'on est en train de vivre quelque chose d'autre, c'est-à-dire que l'union crée la douceur et la légèreté.
Cette union de nous deux, pour moi, c'est vraiment important parce que je connais Vincent depuis longtemps. Et tout le temps, il y a la rêve de faire quelque chose ensemble, tu vois. Ce projet-là, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'intimité. Et pour moi, le côté classique, je vous montre ça à le public. Et avec Vincent, on va faire un voyage incroyable.
Cet album, il est beau et élégant. Il est classe. Si. Ça révèle effectivement beaucoup de choses de vos personnalités à tous les deux. L'un comme l'autre, vous êtes assez timide dans votre expression des émotions. C'est-à-dire que la musique, ça a toujours été un peu un rempart qui vous a permis d'aller au-delà. J'ai l'impression que le fait de travailler ensemble vous a un peu permis de vous révéler à vous-même davantage. Est-ce que c'est plus facile quand on est à deux de se mettre à nu, de lâcher prise?
C'est vrai que j'ai une tendance à aimer les duos. Et j'ai toujours eu du mal avec des ensembles où il y a une personne devant et 10 personnes derrière. Donc ça, c'est toujours un peu difficile parce que des fois, il y a un côté trop spectaculaire et pas assez intérieur. Donc c'est pour ça que j'adore le jazz. Un vrai leader, il partage avec les musiciens qui sont autour de lui. Et c'est vrai que ce qui m'a touché quand Roberto m'a demandé de jouer avec lui, c'est que je sais qu'on a ce tronc qui est entre des musiques traditionnelles mais une grande culture de formation classique. Un piano qui peut faire beaucoup de nuances, qui est un énorme nuancier. Et cet amour du chant et de la danse, c'est-à-dire que c'est un chant intérieur, mais on aime les voix. On a accompagné beaucoup de chanteurs tous les deux. J'aime leur intériorité, en fait.
Pour moi, je joue la musique, c'est mon manière de parler. Quand je joue avec Vincent, je suis vraiment honoré. Pour moi, ça, c'est la musique. Quand tu parles avec quelqu'un qui t'entend, et la musique, c'est la langue universelle. Pour moi, c'est possible d'exprimer toutes mes idées avec Vincent. C'est vrai qu'il y a un univers musical énorme, mais en même temps, il y a beaucoup de sensibilité. Je suis beaucoup timide, mais avec le piano, avec Vincent, ouais, tu peux faire tout, hein, parce que nous, on avait joué déjà avec le public.
C'est la qualité d'écoute des gens qui est très agréable. Quand on en joue, on peut vraiment rester dans la danse. Même si le piano, c'est un instrument de percussion, la beauté du piano, c'est que c'est percussion, mais on peut être très subtil. Et en fait, j'avoue que pour la danse, j'ai pas grand-chose à faire, parce que c'est lui qui fait tout. Et en fait, j'ai juste à faire un peu de son de violoncelle, comme ça.
On sait, Roberto, que vous venez de Cuba.
Ouais.
C'est très compliqué, la situation à Cuba. À chaque fois, on espère toutes et tous que ça évolue. Malheureusement, ça évolue, mais toujours dans le mauvais sens. Il y a un sentiment de liberté dans cet album. Ça veut dire quoi, la liberté, pour vous, aujourd'hui?
Oui, la situation à Cuba, c'est difficile aujourd'hui. Tout le monde connaît ça. La liberté, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et dans l'album, il y a beaucoup de sentiments de tristesse, de douleur. Et en manière, avec la musique, je le donne un peu d'espérance, un peu de force aussi, parce que c'est vraiment difficile maintenant, la situation là-bas à Cuba.
Finalement, c'est un tête-à-tête avec le public, ce spectacle aussi.
Ouais, quand on a joué au Théâtre d'Orléans, il y avait un groupe qui faisait la première partie, ils étaient très sympathiques et tout, mais ils avaient mis beaucoup d'amplis et ça jouait assez fort. Et finalement, on s'est retrouvés tous les deux et il y a une espèce de respiration qui s'est faite dans la salle. En fait, le silence n'existe pas. À chaque fois, on dit le silence, mais le silence, il y a toujours quelque chose qui va se passer, un frétillement. Mais ce calme est très agréable, je crois, est très important. Et il a tendance à souvent disparaître dans les concerts, mais même au théâtre, où les gens ont peur du vide. Et en fait, c'est vrai que les gens le ressentent. C'est-à-dire que personne tousse, tout ça, on entend. Et tout d'un coup, bing! Et c'était assez rare parce que finalement, que ce soit Roberto ou moi, on a joué aussi dans beaucoup de formations où globalement, on est obligé de maintenir un certain niveau de son sur scène qui fait qu'on peut pas avoir cette qualité de discussion musicale.
Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans le monde d'Élodie sur France Info. Et je conseille vraiment vivement d'écouter cet album, cette nuit parisienne foncée. Je vais juste donner les dates de concert. Vous serez donc en concert le 8 février au Théâtre du Châtelet, le 21 mars à la Saline Royale d'Arc-et-Senans et le 14 juin au Sceau Jazz Festival. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et le monde d'Élodie, c'est à réécouter sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure, dissuasion, détection, vérification et mise en fuite, pour une protection complète jour et nuit. Devis gratuit sur Vérissure.fr.
Christine Peña, le défilé des perturbations se poursuit.
Oui. Là, il se poursuit, oui, effectivement. Lune, donc Chandra, aujourd'hui, cette perturbation nommée ainsi par nos voisins anglais. Et puis, nous en aurons une autre jeudi, demain, mercredi. On aura une petite amélioration, un peu comme hier, en fait. Alors, nous allons sortir de la vigilance orange, pluie, inondation sur le Finistère et le Morbihan, là, à 6h. Vous entrez dans un ciel de traîne qui donnera quelques éclaircies quand même, même si le risque d'averse ne sera pas nul, et notamment un risque d'averse orageuse sur le sud de la Bretagne. Ça s'améliore quand même un peu. Les trois départements bretons resteront en vigilance orange pour les crues. Le mauvais temps aujourd'hui est lié donc à cette dépression qui va se décaler vers l'est, le sud-ouest et puis en Méditerranée également avec de la neige en montagne. Une limite pluie-neige qui va s'abaisser à 1700 mètres d'altitude pour les Pyrénées, 1500 pour les Alpes et donner ce soir et la nuit prochaine énormément de pluie de nouveau en Méditerranée et notamment sur les Alpes-Maritimes. C'est un peu globalement bien perturbé quand même un peu partout aujourd'hui. Les températures toujours autant contrastées, entre moins 2 en ce moment à Épinal, moins 1 à Strasbourg. Et il fait 15 degrés dans les Landes à Dax.
Merci beaucoup Christine Peña. Nous serons à Minneapolis dans moins de 5 minutes, là où deux Américains ont été tués en 3 semaines alors qu'ils s'opposaient aux méthodes de la police de l'immigration. Le maire de la ville affirme que les agents fédéraux vont commencer à partir. Témoignage exceptionnel aussi à venir dans le choix de France Info consacré à ces chasseurs de pédophiles qui utilisent l'intelligence artificielle pour les démasquer. Et tout de suite, la répression en Iran à la une d'un nouveau journal. Internet est toujours coupé en Iran, mais des témoignages parviennent à se frayer un chemin jusqu'à nous. Les témoignages d'une répression sanglante des manifestations anti-régime qui ont débuté fin décembre. Selon l'hebdomadaire américain Le Time Magazine, le bilan pourrait dépasser les 30 000 morts. Bilan uniquement pour les 8 et 9 janvier dernier. Au début du mois, le président américain avait promis de frapper le pays si le régime continuait de tuer ses manifestants. Il n'en est rien pour le moment, mais les États-Unis viennent de déployer un porte-avions dans la région et un sous-marin nucléaire. Et la crainte d'une intervention militaire est toujours bien présente à Téhéran, Siavos Ghazi.
Tout le monde, ou presque, est persuadé qu'il y aura une attaque américaine dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Signe de ces inquiétudes, la bourse de Téhéran a chuté pour la troisième journée consécutive. Parmi les gens qui ont manifesté ces dernières semaines contre le pouvoir, certains espèrent une intervention américaine, mais d'autres craignent que le pays ne soit déstabilisé encore plus. C'est le cas d'Ahmad, un chauffeur de taxi de 61 ans, qui ne cache pas son inquiétude.
L'inquiétude existe, bien sûr, c'est naturel. Nous vivons ici, nous avons une famille, nous sommes inquiets. C'est 50-50, il y a 50% de risque qu'il y ait une attaque. La situation économique est très dure, on n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Le coût de la vie est devenu très élevé.
Une crainte partagée par Majid, un soldat de 25 ans, qui est venu faire ses courses avec sa mère.
Lorsqu'on parle aux gens, tout le monde dit qu'il va y avoir une guerre. Moi aussi, je pense que la possibilité d'une guerre existe. L'inquiétude existe aussi, bien sûr. Sans même la guerre, on est inquiet. Et maintenant qu'une guerre peut arriver, notre inquiétude est encore plus grande. Notre situation est déjà mauvaise. S'il y a une guerre, ce sera encore pire.
De leur côté, les responsables iraniens ont répété ces derniers jours que l'Iran ripostera à toute attaque en visant les bases américaines dans la région, mais aussi Israël.
L'ONU salue le retour du dernier otage israélien et appelle à la mise en œuvre intégrale du cessez-le-feu. Le corps de Ran Vili, le dernier otage se trouvant dans la bande de Gaza, a été rapatrié hier en Israël. Une condition pour la mise en place de la suite du plan de paix américain, le poste frontière de Rafah entre Israël et l'Égypte, doit ouvrir très prochainement. Le nord-est des États-Unis doit toujours affronter la vague de froid polaire jusqu'à moins 30 degrés et les températures doivent encore chuter les prochains jours. On compte déjà 23 morts, des personnes mortes dans la rue ou dans des accidents. Le froid, la neige mettent à mal le réseau électrique. Près de 600 000 foyers sont sans courant. Le gouvernement italien demande la mise en place d'une enquête conjointe après l'incendie du bar de Cran Montana en Suisse. 40 personnes sont mortes la nuit du Nouvel An, dont 6 Italiens. Rome a rappelé son ambassadeur ce week-end pour montrer son opposition à la libération sous caution du propriétaire français du bar. L'Italie précise que l'ambassadeur ne reprendra pas ses fonctions tant qu'il n'y aura pas d'enquête conjointe. Une semaine à peine après avoir annoncé une réduction de ses coûts et la fin du télétravail en France, Ubisoft dévoile maintenant ses projets de restructuration. Depuis plusieurs années déjà, le géant français du jeu vidéo est en crise. Le groupe derrière le jeu Assassin's Creed et Prince of Persia annonce un vaste plan de réorganisation. Il compte supprimer 200 postes au sein de son siège et cela va passer par un plan de départ volontaire, Laurine Benjebria.
Ce n'est pas un plan de licenciement, cela se fera sur la base du volontariat, assure la direction. Elle proposera au syndicat un projet de rupture conventionnelle collective uniquement pour son siège, jusqu'à 200 postes supprimés, soit près de 20% des effectifs de ce site. Les studios de production à Lyon, Montreuil ou Bordeaux ne seront eux pas concernés. Ce remaniement s'accompagne d'une cure d'austérité d'au moins 200 millions d'euros sur 2 ans, soit 500 millions d'euros d'économies réalisées depuis 2023, avec la fermeture de studios à l'étranger et de baisse des effectifs. En interne, ces décisions font grincer des dents, d'autant qu'Ubisoft a également annoncé la semaine passée la fin du télétravail pour les salariés français. Un plan de retour au bureau décrié par les syndicats. Ils accusent la direction de vouloir inciter les salariés au départ et prévoient une mobilisation dans les prochaines semaines.
Laurine Benjebria sur France Info.
France Info, 5h-6h, Maureen Suignard.
Ils vont quitter la ville. Dès aujourd'hui, les agents fédéraux vont commencer à partir de Minneapolis, annonce le maire de la ville américaine du Minnesota. Des agents déployés par le président Donald Trump pour appliquer notamment sa politique migratoire et qui sont accusés d'avoir tué 2 manifestants dans la ville en 3 semaines. Le chef d'État américain a joué l'apaisement ces dernières heures, a appelé à la fin des violences. La mort d'Alex Preti, un infirmier de 37 ans, est une tragédie, dit-il. Sur France Info, Corentin Cella, professeur d'histoire spécialiste des États-Unis, revient sur l'envoi de ces agents fédéraux à Minneapolis par Donald Trump. Les méthodes de ces agents sont remises en cause jusque dans son camp.
Le drame qui est survenu ce week-end à Minneapolis n'est que le résultat d'une volonté de Donald Trump, j'allais dire, de démontrer la force, la puissance fédérale, de son pouvoir à lui, présidentiel, vis-à-vis d'autorités locales démocrates. Le Minnesota est un État vraiment traditionnellement démocrate, qui n'a pas voté pour un candidat républicain à la présidentielle depuis 1972, c'est dire. Et en fait, Donald Trump a déployé 3 000, il y a 3 000 agents de l'immigration, que ce soit de la fameuse ICE, la police de l'immigration chargée des expulsions, ou de la police aux frontières. Il y a 3 000 agents qui sont déployés à Minneapolis, dans une ville qui, à l'échelle américaine, n'est pas très très grande. Et donc, pourquoi faire ? Pour justement démontrer que les autorités locales, le maire démocrate, le gouverneur démocrate Tim Walz, qui a été le colistier de Kamala Harris, étaient faibles, étaient impuissants face au crime et face à la corruption et face à l'immigration clandestine. Et cette stratégie de la tension, de vouloir démontrer cette puissance, elle a amené progressivement des empiétements sur le droit de la part de ces policiers d'immigration, des empiétements qui sont allés jusqu'à 2 meurtres. Le premier, donc, il y a 10 jours, et sur René Good, et là, sur l'infirmier Alex Preti. Et ce second meurtre, incontestablement, amène le pays et cette volonté de démonstration de puissance de Trump à un point de un tournant, à un point de bascule. Il va falloir choisir. Est-ce que Donald Trump continue ce déploiement contre les populations locales qui, de plus en plus nombreuses, ne veulent plus de cette présence et de ces empiètements sur le droit, ou bien est-ce qu'il accepte de faire un pas de côté et peut-être de revenir à l'entente avec les autorités locales ? C'est toute la question ce soir.
Vous parlez de tournant ou de point de bascule. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Corentin Célin ? On sait que les anciens présidents, normalement, aux États-Unis, restent plutôt silencieux et ne commentent pas les actions des gens qui sont présents à la Maison-Blanche. Ça n'a pas été le cas après ce week-end, puisque Bill Clinton et Barack Obama, deux anciens présidents, évidemment démocrates, sont sortis de leur silence. Est-ce que ça, d'abord, ça a, selon vous, une signification, et est-ce que sur le plan politique, Donald Trump se met en danger avec ce type d'événement ?
Alors, là où ça change, parce qu'évidemment, les auditeurs pourraient se dire « Oui, mais en quoi est-ce différent ?» Comme vous l'avez rappelé, il se passe tous les jours quelque chose. Ce qui est différent, premièrement, avant même la réaction des deux ex-présidents démocrates, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, on voit vraiment des réactions d'élus républicains, qu'on sait par ailleurs souvent terrorisés par Trump et plutôt totalement dans la ligne de Trump, qui disent non, là on peut pas aller plus loin, on peut pas avoir un homme ceinturé à terre qui prend 10 balles de toute évidence il ne brandissait aucune arme, même s'il portait une arme sur lui, mais qui lui avait été retirée. Et par exemple, quand on voit ce soir le sénateur du Texas, Ted Cruz, qu'on connaît, qui a été un des concurrents de Trump il y a 10 ans dans la primaire, qui est quand même extrêmement conservateur, dire « il faut changer de politique avec l'ICE au Minnesota, avec la police de l'immigration au Minnesota », on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Y compris même le gouverneur du Texas, Greg Abbott, encore plus conservateur, républicain encore plus conservateur, qui dit « il faut changer la manière d'employer l'ICE ».
Ça, donc, ça veut dire quoi, pardon, Corentin Célin ? Ça veut dire que ces élus auxquels vous faites référence, qui sont très conservateurs, s'ils prennent ces positions publiquement, ça veut dire que l'opinion publique américaine, en tout cas leurs électeurs, qui sont eux-mêmes conservateurs, ne, visiblement, ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer.
Non, ils ne sont pas d'accord, d'autant que, alors c'est un peu l'inattendu de ce drame et de cette affaire, c'est qu'en voulant défendre l'action de l'ICE, Donald Trump et certains de ses ministres ont semblé s'en prendre au droit de porter des armes à feu, qui est sacré pour des conservateurs. Puisqu'il faut rappeler que Alex Preti, la victime, portait certes une arme à feu, mais tout à fait légale. Il avait le droit de la porter, le droit de l'avoir sur lui. Et les Trump, alors moins Trump que certains de ses ministres, ont semblé remettre en cause ce droit. Et donc, chez les conservateurs, là aussi, ça coince. Donc, tout ça fait que on trouve que ça va trop loin. Alors, effectivement, il y a aussi la réaction exceptionnelle des deux ex-présidents démocrates. C'est très rare que des ex-présidents reviennent dans l'arène politique, mais justement, l'un comme l'autre, Clinton comme Obama, ont bien indiqué qu'il ne s'agissait plus de politique. Il s'agit simplement de savoir de quel pays on veut. Est-ce qu'on veut d'un pays où un citoyen qui manifeste, et il en a encore le droit, contre une politique de traque assez violente contre des immigrés sans papier, va prendre 10 balles dans la peau. Eh bien, Barack Obama a dit non. Ce n'est pas là-dessus que s'est construite la nation américaine et la démocratie américaine. Et il l'a bien dit, ce n'est pas partisan. Donc, ça aussi, c'est exceptionnel, même si ça aura moins de poids chez les républicains qui, eux, n'aiment guère Obama ou Clinton. Mais ça signale que là, il y a eu un cap franchi. Il y a quelque chose de vraiment gravissime qui s'est passé. Et donc, c'est pour cela qu'on a senti, et ce qui est très exceptionnel, Donald Trump commencer à faire l'amorce d'un léger recul. Il a appelé le gouverneur, ils se sont appelés avec le gouverneur Walz, qu'il déteste, qu'il agonissait encore il y a quelques heures. Ils se sont appelés, il a dit qu'ils avaient eu un très bon appel ensemble. Alors, pour l'instant, c'est plutôt de la posture, il n'y a pas encore des choses concrètes, hein. Là, c'est toujours à Minneapolis, mais quand même, on voit que Donald Trump met un peu d'eau dans son vin par rapport à ses réactions.
Ça veut dire quoi? Qu'il y a un risque, d'abord pour le pays, de fracture vraiment très importante, même si cette fracture, elle existe déjà. Et puis plus concrètement, pour terminer sur le plan politique, il y a encore un budget hein, qui doit être voté au Congrès. Est-ce qu'il y a un risque pour Donald Trump d'un nouveau shutdown, comme on dit?
Oui, alors ça, c'est le risque immédiat. À la fin de la semaine, doit avoir lieu un vote budgétaire très important dans lequel il y avait une loi de financement de l'ICE, de cette fameuse politique de l'immigration. Donc, beaucoup de démocrates et même certains républicains disent on peut pas voter ça comme ça en l'état, vu le contexte, vu ce qui vient de se passer. Donc, effectivement, ça crée un problème à court terme. Mais à moyen terme, pourquoi Donald Trump semble un tout petit peu s'amender? Parce que il y a les midterms et que cet événement, ces images qui ont traumatisé les États-Unis vont avoir un impact sur des sondages d'intention de vote qui n'étaient déjà pas bons. Donc Donald Trump sait bien que plus on s'approche des midterms, moins il peut se permettre ce type de crise nationale. Sauf, évidemment, si ce qu'il recherche, c'est un affrontement civil qui amènerait le déclenchement de pouvoirs spéciaux. Alors certains démocrates suggèrent cela, on va laisser ça, ce sont des hypothèses. Mais sauf cette hypothèse du risque absolu, Donald Trump n'a aucun intérêt avant les midterms à avoir une telle crise nationale, y compris dans son camp, face à des images qui ont choqué quand même énormément d'Américains.
Corentin Célin, invité de France Info, professeur d'histoire, spécialiste des États-Unis. Une prime d'activité de 50 euros en moyenne pour les ménages aux revenus modestes, des repas à 1 euro pour les étudiants, mais aussi des taxes en plus pour les entreprises. Que contient le volet dépenses du budget 2026? Réponse avec notre spécialiste du service éco.
France Info, 5h-6h.
5h44 sur France Info à la une ce matin. Sarah Ders, la répression en Iran et des dizaines de milliers de morts.
Selon le Time Magazine et plusieurs ONG, le bilan dépasse les 30 000 morts en deux jours, les 8 et 9 janvier. Au début de la contestation contre la vie chère et le régime des mollahs, l'Iran décompte 3 000 morts, essentiellement des membres des forces de sécurité. Il n'y a plus d'otages israéliens du 7 octobre à Gaza, le dernier corps rapatrié en Israël. L'État hébreu annonce une réouverture limitée du poste frontière de Rafah avec l'Égypte, mesure prévue par l'accord de cessez-le-feu à Gaza. À l'approche des élections municipales de mars, Amine Kessassi rejoint la liste du maire sortant de gauche Benoît Payan à Marseille. Le militant anti-drogue a perdu son frère Mehdi Kessassi, assassiné en novembre dernier, mort pour rien selon son frère. Ubisoft, le géant des jeux vidéo, compte supprimer jusqu'à 200 postes au sein de son siège, 5% de ses effectifs en France. Un plan de restructuration pour se relancer dénoncé par les syndicats.
France Info.
Après-midi, une nouvelle fois agitée à l'Assemblée nationale. Deux motions de censure sont étudiées. L'une déposée par le Rassemblement national, l'autre par la France insoumise. Cela fait suite à l'utilisation du 49.3 par Sébastien Lecornu pour faire adopter le volet dépenses du budget sans vote. Sauf retournement de situation, le gouvernement ne devrait pas tomber puisque les socialistes ne comptent pas les voter. Bonjour Camille Revel.
Bonjour.
Alors voyons ce que prévoit ce budget d'abord en ce qui concerne les ménages.
D'abord, oubliez l'année blanche, le barème de l'impôt sur le revenu ne sera pas gelé, mais revalorisé en tenant compte de l'inflation. Les retraités conservent l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient sur leur pension. La prime d'activité augmente de 50 euros par mois en moyenne pour 3 millions de ménages aux revenus modestes. Et tous les étudiants pourront bénéficier des repas à 1 euro à partir du mois de mai. En revanche, dès le mois de mars, doit s'appliquer une taxe de 2 euros sur les petits colis en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne, notamment de Chine. Et puis la contribution différentielle sur les hauts revenus qui concerne les célibataires gagnant plus de 250 000 euros par an et les couples en gagnant plus de 500 000 est reconduite jusqu'à ce que le déficit passe sous 3% du PIB. Aujourd'hui, il tourne autour de 5,4%.
Et pour les entreprises, l'exécutif promet que rien ne change pour 99 d'entre elles. Est-ce qu'il y a un mais ?
Les 320 plus grandes entreprises sont à nouveau priées de s'acquitter d'une surtaxe d'impôt sur les sociétés. Elle doit rapporter 7,3 milliards pour financer l'effort de défense. Et puis la CVAE, impôt de production que le gouvernement prévoyait d'alléger, est finalement maintenue telle qu'elle. En contrepartie, dit-il, pas de coup de rabot sur les allègements de charges.
Et le gouvernement veut aussi réduire les dépenses. Où sont les coupes ?
Les opérateurs, c'est-à-dire des organismes chargés d'une mission de service public dans les secteurs de la transition écologique, des collectivités ou de l'industrie qui investissent moins vite que prévu et accumulent de la trésorerie ne recevront pas d'argent frais, assure la ministre des Comptes publics, soit 1,5 milliard d'euros de dépenses en moins. Amélie de Montchalin promet aussi dans Le Figaro que la politique des achats de l'État va être remaniée pour économiser 1 milliard et que les ministères verront leurs réserves réduites d'1,7 milliard. Tous ne sont pas mis à la diète. Ainsi, le budget des armées augmente de plus de 6,5 milliards. Quant aux collectivités, selon Sébastien Lecornu, l'effort net qui leur sera demandé représentera près de 2 milliards d'euros.
Les précisions de Camille Revel, service éco de France Info. Et voici le choix de France Info. Des témoignages rares ce matin, des personnes qui, derrière leur écran, se font passer pour des jeunes filles. Ils prennent leur apparence, leur voix, grâce à l'intelligence artificielle. Le but est de piéger des pédocriminels. Bonjour Farida Noir.
Bonjour.
Vous avez rencontré l'un de ces streamers, ces créateurs de contenu, qui se filment en direct pour traquer les prédateurs sur Internet.
Oui, c'est au fond d'une cour, dans son appartement, que j'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux.
Monsieur Fox.
C'est son pseudo sur les réseaux. On ne dévoilera pas son nom, ni dans quelle ville il habite.
J'ai reçu des menaces de mort.
Car Monsieur Fox, 31 ans, s'est donné une mission, chasser les prédateurs en ligne. Lui-même en a été victime quand il avait 13 ans.
Pour faire de la prévention et montrer que tout ça, c'est quelque chose de réel et que n'importe quel adolescent, finalement, peut tomber là-dessus.
Alors, tous les soirs, depuis 3 ans, il se connecte sur ces plateformes.
Eh ben, j'ai un multi-écran, clavier, souris, tout le setup qui me sert à faire des streams, donc une caméra, des micros.
Et surtout, l'intelligence artificielle. Car c'est grâce à l'IA qu'il entre en contact avec ses prédateurs en créant un personnage de jeune fille.
En ce moment, c'est Linda. Et je dis avoir 14 ans. C'est une fille qui a redoublé à l'école, qui manque de confiance en elle. Un profil qui peut être manipulable en somme pour un prédateur qui verrait là quelqu'un de fragile.
Vous pouvez nous la décrire ?
Alors généralement, je la génère toujours dans sa chambre qui peut être un petit peu en désordre. On y voit directement donc Linda en pull avec un léger sourire.
Avec un petit plaid rose.
Exactement, avec un petit plaid rose. C'est assez bluffant.
Mais l'arme redoutable de Monsieur Fox pour piéger ces hommes qui pensent parler avec Linda, c'est sa voix qu'il modifie aussi grâce à l'IA.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une démonstration ?
Ok, alors.
Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, cette jeune fille ?
Ça va et toi ? Est-ce que tu racontes de beau ? Je me souviens plus, t'as quel âge déjà ? Tu peux me dire ?
C'est hyper facile, c'est vraiment simple d'accès aussi, quoi.
Et ça marche quasiment à chaque fois.
Ah, allez, les gars.
Comme vous allez l'entendre avec des extraits de ses streams, ses échanges diffusés en direct devant ses abonnés.
On y voit
Monsieur Fox sur une partie de l'écran, sur l'autre, le prédateur, qui pense donc parler avec une jeune fille de 14 ans.
Il n'y a plus qu'une voix.
Attention, certains extraits sont crus.
T'as quel âge ?
37.
Moi j'ai 14.
Et tu portes quoi sous ton haut ? En dessous ?
Mais il n'y a rien de fou à voir, hein.
Bah, j'adorerais voir.
Je peux te poser une question perso ?
Oui.
Est-ce que ça t'arrive de te caresser ?
Oula.
Non.
Moi, j'adore le sexe.
Ben, moi, j'ai jamais rien fait, donc je sais pas.
Justement, c'est pour ça que...
Ça veut dire que si toi, tu serais open, genre, avec une fille de mon âge.
Oui.
T'as des enfants, tu travailles ?
Non, je suis en retraite. Et toi ?
Moi, je suis en cinquième.
T'as un petit copain ?
Non, j'ai jamais eu de petit copain.
T'as l'air mignonne, pourtant.
Et à quel moment vous vous arrêtez dans ce genre de conversation ?
Alors généralement, j'arrête quand j'ai trouvé assez de preuves nécessaires pour faire le signalement sur Pharos.
Est-ce que vous avez comptabilisé le nombre de signalements que vous avez fait depuis que vous avez commencé ?
Il y en a tellement sur 3 ans, plus d'une centaine.
Il lui arrive aussi de prévenir les familles ou amis de ses prédateurs en ligne en menant une enquête grâce à des éléments que ces hommes laissent voir quand ils sont en ligne.
Je vais prendre l'exemple d'un prédateur qui m'avait donné juste la photo de son chat et son prénom. Et à partir de là, la personne qui travaillait avec moi a réussi à retrouver absolument toutes ces infos, nom, prénom, numéro, juste parce que la photo était publique sur un site de chat perdu.
Monsieur Fox prévient ceux qui le suivent sur ses réseaux qu'il ne se prend pas pour la police, mais il estime que sa traque est faite dans les règles, comme par exemple quand il floute les visages et que son travail peut aider.
Étant donné que je ne suis pas passé par des méthodes douteuses, les signalements que j'envoie peuvent être du plus-value si par exemple une enquête est ouverte sur une de ces personnes-là.
Sauf que Farida, ses chasses aux prédateurs en direct qui rassemblent des milliers de spectateurs, interroge sur le plan juridique. Est-ce que cela aide vraiment les enquêtes ou risque-t-elle au contraire de les compromettre ?
Elle les entrave, alerte l'OFMIN, l'Office mineur de la police judiciaire, et encore plus quand d'autres streamers, comme un certain Finizi, lui aussi modifie sa voix grâce à l'IA, se dévoilent pour interpeller le prédateur qu'il ne floute pas.
Raccroche pas, s'il te plaît, est-ce qu'on peut discuter, s'il te plaît ?
Mais pourquoi tu t'aimes parler avec les jeunes filles de 14 ans ?
Pourquoi ? T'es un justicier ou c'est...
Bah, on a tout sur toi.
Et toi, ça te regarde.
Toutes ces actions, ce recours à l'intelligence artificielle ne s'inscrivent dans aucun cadre légal et sécurisé, explique Aurélie Besançon, la chef de l'OFMIN, et font même peser des risques majeurs sur les enquêtes et sur les victimes, car ces preuves ne sont pas recevables par un tribunal.
Parce que le système légal français est strict et encadré et qu'il prévoit l'impossibilité de provoquer à l'infraction. Ce que risquent ces chasseurs de pédocriminels qui ne sont pas évidemment formés pour ce faire, comme les policiers et les gendarmes, le fait de converser avec des pédocriminels pour un citoyen n'est pas prévu dans les textes. Court le risque d'alerter ces mêmes pédocriminels qui risquent de fait de supprimer des preuves qui auraient été nécessaires au service de justice pour établir les faits.
Elle les encourage donc plutôt à poursuivre leur engagement en rejoignant les forces de police ou les associations de prévention reconnues, d'autant plus qu'une fois exposés publiquement, certains prédateurs peuvent se retourner contre ces streamers en engageant des poursuites en justice.
Le choix de France Info signé Farida Noir à réécouter grâce à l'application Radio France. Dans moins de 5 minutes, une star contrainte d'annuler plusieurs concerts, une star à l'affiche de plusieurs grands festivals l'été prochain en France. C'est dans la playlist de France Info. Lui est bien là, en studio, avec nous pour le Réveil de l'Écho. Bonjour Emmanuel Quini.
Bonjour à tous.
Le Réveil de l'Écho, avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Toute l'actualité économique en trois titres avec vous. Et d'abord, le verrier Arc International qui a peut-être trouvé son repreneur.
Oui, un candidat s'apprête en effet à déposer son dossier auprès du tribunal de commerce. Il s'agit de Patrick Puy, spécialiste de la reprise de sociétés en difficulté. Alors, une opportunité pour la cristallerie qui est aujourd'hui, je le rappelle, en redressement judiciaire. Patrick Puy affirme qu'il comptait tout faire pour déposer une offre sur le spécialiste des arts de la table qu'il avait déjà dirigé entre 2013 et 2015. L'homme d'affaires est connu également pour s'être occupé des dossiers Moulinex-Brandt, Vivarte et Gosport.
Attention, jeu de mots, Airbus vole de succès en succès grâce à ses hélicoptères.
Oui, Airbus hélicoptère, basé notamment à Marignane, à côté de Marseille, est une véritable poule aux œufs d'or pour le constructeur aéronautique européen. Le groupe a vendu l'année dernière un peu plus de 540 hélicos, soit 20% de plus par rapport à 2024. Des ventes portées par les commandes militaires massives en Europe et l'intégration des drones dans les systèmes de combat.
L'industrie de la défense, justement, qui est très soutenue par les banques françaises.
Oui, sur le seul premier semestre 2025, les grands établissements financiers de l'Hexagone ont accordé 45 milliards d'euros de financement aux entreprises du secteur militaire. Selon le président de la Fédération bancaire française, Daniel Ball, les 6 plus grandes banques de l'Hexagone, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale et même la Banque Postale, eh bien toutes ont augmenté leur financement des entreprises de défense de 75% depuis 2021.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Je vous en glissais un mot déjà hier, ici même, le numéro 1 français du jeu vidéo Ubisoft est contraint de réduire la voilure et on en sait un peu plus. Le groupe en difficulté financière entend en effet supprimer jusqu'à 200 postes dans l'Hexagone. Le plan d'économie va également passer par l'annulation de la pourtant très attendue suite de Prince of Persia.
Merci beaucoup Emmanuel Cugny et à tout à l'heure. 5h55 sur France Info, voici la playlist avec vous Sarah Derz. Vous n'avez pas une bonne nouvelle pour nous ce matin. La superstar française de la musique électro DJ Snake annule une partie de sa tournée.
La raison, un problème de santé pour lequel il doit se faire opérer en février. Ces derniers mois, DJ Snake n'a pas cessé de faire la une de l'actualité musicale. Il remplit le même soir le Stade de France puis l'Accor Arena et même investit la Tour Eiffel. DJ Snake dévoile donc son nouvel album Nomade avec cette musique que vous pouvez écouter sur la Tour Eiffel, l'apogée. L'artiste de 39 ans qui ne quitte plus ses lunettes noires a commencé comme producteur hip-hop dans les années 2000. Et puis ce premier titre, ce premier tube, Burn Machine, succès fulgurant en 2013. C'est là qu'il suscite la curiosité de Diplo, célèbre DJ américain, et naît le tube Turn Down For What. 10 millions de singles vendus à l'époque, Michelle Obama, alors première dame des États-Unis, utilise le morceau sur le compte officiel de la Maison Blanche.
Ça réveille.
Et c'est pas fini. DJ Snake collabore avec Justin Bieber, Lady Gaga et Major Lazer. Et ce titre, dont vous vous souvenez, j'imagine, Lean On, sorti en 2015. Venez de la Corée.
Évidemment.
Et désormais, DJ Snake accumule plus de 40 milliards de streams et de nombreux tubes, dont Disco Maghreb, sorti en 2022. C'est donc un hommage au son alaoui algérien et à ses racines maternelles. DJ Snake, vous l'avez compris, est l'un des artistes français les plus écoutés à l'international. Il confie donc devoir annuler une partie de sa tournée pour revenir à 100%, car la star est annoncée comme tête d'affiche dans plusieurs festivals en France cet été, comme à Toulouse, Cannes ou au Château de Chambord.
Et on lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Grosse tête d'affiche aussi du festival de Chambord, Aurel San ou encore Maroon 5. Merci Sarah Ders pour la playlist de France Info.
France Info Météo avec Vérissure. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle priorité, votre sécurité. Demande de devis gratuit en moins d'une minute sur Vérissure.fr.
Elle brave la pluie, le vent et même la neige. Christine Peña, vous nous dites que la pluie et la neige donc s'invitent en montagne.
Oui, en studio, c'est bien de braver tous ces intempéries, effectivement, on est au chaud. Oui, alors nous avons ces pluies qui traversent le pays. De nouveau, cette belle perturbation qui apportera des pluies soutenues, cette fois sur le sud-est en Méditerranée, puisqu'elle va poursuivre son chemin, là, se décaler vers les régions de l'est et du sud-est, apportant de la neige et pas mal de neige sur les Pyrénées. Alors, avec une limite pluie-neige qui s'est un peu rehaussé. 1900 mètres d'altitude pour ce matin sur les Pyrénées, ça descendra à 1700 cet après-midi et autour de 1700 mètres également pour les Alpes. Au niveau des températures, toujours ce grand contraste, on a encore des gelées là sur l'est du pays, il fait moins 2 à Strasbourg alors qu'il fait très doux dans le sud-ouest, 15 à 16 degrés du côté de Dax ou encore de Bayonne, et cet après-midi dans le sud-ouest vous allez baisser, voilà, les températures vont rejoindre les 10-11 degrés, il fera un peu moins doux alors que partout ailleurs, on gratte quelques degrés, on est à 5-6.